Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllab et vous avez bien raison. Avez-vous vu les images de l'investiture de Donald Trump hier ? Au centre d'une arène, le 47e président des USA s'est installé devant un bureau décoré du sceau présidentiel. Sous les applaudissements, il signe et présente à la foule une série de décrets dont certains violent la constitution de son pays. Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, check. Retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, check. Grâce des émeutiers du Capitole, applaudissements. État d'urgence à la frontière sud avec le Mexique, done. Suppression des politiques d'aide pour les personnes transgenres, plié. Réintégration de Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme, ok. Son forfait accompli, Trump quitte la scène en lançant des stylos à son public. Avez-vous déjà vu le film Idiocratie de Mike Judge ? Dans ce monument des années 2000, jour après jour plus visionnaire, le président des USA est une rockstar, faisant voter des lois depuis son bureau situé au milieu d'une arène devant une foule en délire. Pour l'instant, la ressemblance s'arrête là. Pour l'instant, j'espère. Le président d'Idiocratie, lui, n'hésite pas à tirer en l'air à coups de mitraillettes, à débattre à coups de combats de voitures et à célébrer ses victoires politiques à grands coups de riffs de guitare. Au moins dans le film, le gouvernement américain ne comptait pas dans ses rangs un ministre qui lance des grands sick aids sans complexe. Eva nous en dit un peu plus dans son flash.
Eh oui, Héloïse, voilà le visage du nouveau ministre de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis, Elon Musk, et ça depuis hier. Depuis la cérémonie d'investiture de Donald Trump, qui a officialisé le commencement de son mandat de président. Et en tant que 47e président des États-Unis, le successeur de Joe Biden n'a pas perdu de temps. À peine investi, Donald Trump s'est rendu dans la salle Capital One Arena à Washington, où s'étaient regroupés 20 000 de ses partisans, et a procédé à la signature de nouveaux décrets. Selon le New York Times, on peut l'affirmer avec certitude, on n'avait jamais vu un président venant d'être investi signer des décrets dans une arène sportive devant des milliers de supporters, puis jeter des stylos dans le public. Et le premier décret signé par le nouveau locataire de la Maison-Blanche a été, selon The Wall Street Journal, l'annulation de 78 mesures administratives prises sous l'ère Biden. Par exemple, le décret de son prédécesseur qui avait permis de sanctionner financièrement des colons israéliens accusés de violence contre des Palestiniens en Cisjordanie a été annulé. Une action qui a été dénoncée aujourd'hui par l'autorité palestinienne qui déclare que la levée des sanctions américaines contre des colons extrémistes va les inciter à commettre plus de crimes. Lors de cette investiture, devinez qui était présent. Eric Zemmour, effectivement, mais aussi Shou Zi-Chu, le patron de TikTok. Et en parlant de cette fameuse application, que se passe-t-il en ce moment, Aglaé ?
Je t'explique tout, Eva, pas de problème. Dimanche, les 170 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs américains de TikTok ont pu retrouver leur réseau social préféré, moins de 24 heures après sa suspension. Et même si ce laps de temps était plutôt court, ça en a perturbé plus d'un. Par exemple, dimanche à 1h du matin, un Américain de 19 ans a déclenché un incendie à l'extérieur d'un centre commercial dans le Wisconsin,
yeah.
America.
America, yes. Heureusement, aucun blessé n'est à déclarer. Sa cible principale, le bureau du représentant républicain Glenn Grossman.
Mais pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, en avril dernier, il avait voté en faveur d'une loi à l'allure d'ultimatum. Si ByteDance, le groupe chinois qui possède TikTok, ne vend pas ses activités américaines dans un délai d'un an, le réseau social sera interdit. De quoi contrarier ce jeune Américain qui a assuré à la police que son action était liée à ça. Lui, comme beaucoup, beaucoup d'autres, ont pu lire ce message depuis samedi soir après la décision de la Cour suprême de conforter l'application de la loi votée en avril. Désolé, TikTok n'est pas accessible à l'heure actuelle. Une loi interdisant TikTok a été mise en application aux États-Unis. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant. Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu'il allait travailler avec nous à une solution pour rétablir TikTok une fois entré en action. Restez branchés. Et en effet, Donald Trump, le même qui en 2020 voulait interdire l'appli, a annoncé qu'il voulait prendre un décret pour suspendre la loi. Le but étant aussi de ne pas pénaliser les applications de téléchargement, Apple et Google entre autres, qui risquent théoriquement 5 000 $ par téléchargement illégal. Encore faut-il qu'une vente de l'application soit organisée, car jusqu'ici, ByteDance a toujours officiellement refusé de céder sa création, et ce, malgré de bonnes propositions. Frank McCourt, un homme d'affaires, a par exemple proposé une belle enveloppe de 20 milliards $. Des rumeurs courent aussi à propos d'un potentiel rachat de la plateforme par Elon Musk, mais ce dernier ne s'est pas exprimé à ce sujet. Aussi, Perplexity IA, une start-up d'intelligence artificielle, a soumis à ByteDance une proposition de fusion avec la filiale américaine de TikTok. Selon l'AFP, cela valoriserait le réseau social d'au moins 50 milliards $. Reste encore la possibilité que TikTok soit contrôlé à 50% par des actionnaires américains, comme l'a proposé Donald Trump. Visiblement, le président américain est autant attaché à la plateforme que ses citoyens, puisque dimanche, lors d'un meeting, il a dit « nous devons sauver TikTok », contrastant fortement avec son ancienne politique.
Mais alors pourquoi voulaient-ils tous se débarrasser de TikTok aux États-Unis ?
Eh bien, les États-Unis comme l'Union européenne s'inquiètent du fait que la Chine puisse accéder aux données des utilisatrices et utilisateurs américains, manipuler l'opinion via l'application ou même faire de l'espionnage. Et cette peur n'est pas totalement infondée. En 2022, après les révélations du magazine économique Forbes, TikTok avait reconnu que certains employés, qui ont par la suite été licenciés, avaient espionné des journalistes. Les critiques visant TikTok concernent aussi son caractère addictif, son système de modération et la propagation des fake news. Le 27 février 2023, le Congrès interdisait même l'application sur les téléphones et ordinateurs des agences fédérales américaines.
Merci Agley pour cet éclaircissement. Affaire à suivre. Aujourd'hui, dans la matinée, l'armée israélienne a lancé une opération militaire dans la zone autonome palestinienne de Jénine, en Cisjordanie. Une opération, je cite, « militaire, étendue et de grande envergure pour éradiquer le terrorisme à Jénine », affirme Benjamin Netanyahou, selon France Info. Et à la suite de cette opération, le ministère de la Santé palestinienne a recensé 7 morts et 35 blessés, selon France 24. En France, des aveux datant d'hier ont fait avancer une affaire datant de 1993. Ce sont ceux de Monique Olivier, l'ex-compagne du tueur en série Michel Fourniret, dans l'affaire de Lydie Loger. Mère de famille tuée à Saint-Christophe-le-Jajolais dans l'Orne en 1993, Monique Olivier a avoué son implication dans le meurtre et a confirmé la version de son compagnon maintenant décédé. Dans cette version, l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret, aurait étranglé Lydie Loger après avoir tenté de la violer. Elle a admis sa présence sur les lieux, ainsi que le scénario établi par Fourniret. Nous espérons maintenant que Monique Olivier indiquera l'endroit où le corps a été dissimulé pour lui offrir une sépulture, a déclaré l'avocate de la famille de Lydie Loger, Corinne Herman, à West France. Actuellement en prison à Nanterre, Monique Olivier sera transportée dans l'Orne ce jeudi, dans le cadre des investigations pour découvrir où est enterré le corps de la victime. Les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculinistes. Surtout les jeunes, affirme la présidente du Haut Conseil de l'égalité, Bérangère Couillard. Voilà la polarisation croissante qui ressort du dernier rapport annuel sur le sexisme publié hier par l'HCE. Selon un baromètre réalisé en octobre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 3200 Français de 15 ans et plus, 6 Français sur 10 estiment qu'il est difficile d'être une femme. Mais de plus en plus d'hommes jugent qu'il est difficile d'être un homme, un chiffre qui atteint 45% pour les hommes de moins de 35 ans. Selon le HCE, le procès des viols de Mazan a aidé à une prise de conscience et, pour 65% des Français, cette affaire illustre le fait que tous les hommes portent une part de responsabilité en matière de violences sexistes et sexuelles. En France, le rapport conclut que 86% des femmes interrogées ont déjà vécu une situation sexiste et 9 sur 10 ont adopté des stratégies d'évitement du sexisme quotidien. du sexisme au quotidien, mais aussi du racisme au quotidien. Ces derniers mois, les livreurs Uber Eats et Deliveroo signalent de plus en plus aux plateformes et aux syndicats des incidents à caractère raciste avec des clients. Dans un article de France Info, deux cas bretons sont exposés, dont un à Rennes. En effet, Tarek, un livreur espagnol d'origine marocaine, témoigne, suite à un différend, une cliente profère des insultes racistes à son encontre. À nos confrères et consoeurs de France Info, il témoigne « Attention, ces propos peuvent choquer. Elle m'a dit « Tu vas voir, sale race » et après elle m'a dit « Je vais déposer plainte contre vous, sale arabe ». Face à ces agressions, les clients et clientes injurieux de la plateforme Deliveroo peuvent désormais voir leur compte désactivé, même s'il reste très simple d'en créer un autre. Le 9 janvier dernier, le festival Doin' It a organisé une soirée au magasin disquaire Groove à Rennes pour annoncer la programmation de leur festival qui aura lieu fin mars. Et je m'y suis rendue et j'ai rencontré Charles, le coordinateur de l'association, et Charlotte, sa chargée de com.
L'association Doin' It a été créée en 2007 et on a plusieurs volets. On va voir le principal qui est le festival qui s'appelle le Doin' It Festival, qui est consacré à la culture afro-américaine. Ça veut dire de la house, du jazz, du rap bien évidemment, soul funk et voilà, et j'en passe. Il dure généralement entre 10 jours et une semaine, ça dépend des années. L'événement dans lequel on est ce soir, qui est une nouveauté. C'est vrai que généralement, on n'annonçait pas la prog, et là, on s'est dit qu'on va faire un événement un petit peu plus convivial pour remercier ceux qui nous suivent aussi depuis le début. Et puis, vraiment annoncer, parce qu'on est sur un festival que les gens aiment appeler un peu de niche. Alors, on pense qu'il y a besoin de communiquer plus et faire connaître un petit peu plus ces groupes, vu que certains sont vraiment en développement et choses comme ça, et donc voilà, c'est quelque chose que on a toujours eu à cœur de faire, développer des artistes, pas forcément, alors évidemment on aime bien, on en a de temps en temps des têtes d'affiche qui vont venir dans notre domaine évidemment, mais on veut aussi développer une nouvelle scène. Là les gens ont vu qu'il y a une petite mutation qui se fait aussi avec une ouverture un peu plus grande au niveau du jazz, et donc tout ça on veut le représenter.
Vous voulez en fait faire un événement pour annoncer pas que sur les réseaux sociaux et que ça soit un peu plus agréable d'avoir notre public qui vient ici et qui puisse avoir aussi contact avec nous et qui puisse discuter, échanger de la programmation, quoi.
On va proposer un concert gratuit aussi pendant le festival, un peu en before du festival. Ça c'est aussi une nouveauté, donc voilà, je vais pas tout dévoiler, mais...
On peut retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux, c'est Doin' It Festival.
Merci à moi-même. Avec la team C-Lab, on a failli ne pas venir travailler dans nos locaux ce matin. Et oui, car dès 6h du mat, les étudiants et étudiantes de l'Université de Rennes 2 ont bloqué les bâtiments universitaires du campus Villejean. Un blocage pour tous les bâtiments, sauf les rêves, où nous nous situons actuellement. Par contre, pour les étudiants et étudiantes de Rennes 2, les cours ont été suspendus pour toute la journée. Cette mobilisation, réunissant près de 200 participants et participantes, vise à protester contre les coupes budgétaires décidées par l'État dans les universités et la menace qu'une université soit mise sous tutelle par le rectorat.
Merci Eva. Et oui, et pour ceux et celles qui voudraient plus d'infos, on a reçu le président de l'université, Vincent Gouézé, dans 6h avant minuit, il y a quelques temps. Je ne me rappelle plus la date exacte, mais c'est écoutable en podcast sur la page de 6h avant minuit.
Premier lundi de janvier, ah oui, je crois.
Le 6 janvier, du coup.
Je crois,
c'est l'émission du 6 janvier, absolument. Merci Eva.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Aglaé a un invité ce soir.
Lunettes noires et pull bleu marine, ce soir nous recevons Christophe Jurado, directeur eau, déchets, activités portuaires chez Idéalco. Pardon. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous venez nous parler ce soir du 26e Carrefour des gestions locales de l'eau. Qu'est-ce que c'est le Carrefour des gestions locales de l'eau ?
C'est un salon dédié aux professionnels du secteur. On attend cette année pour la 26e édition 16 000 participants, 600 exposants et 180 conférences seront à voir pendant ces deux jours, donc les 22 et 23 janvier à Rennes au Parc des Expos.
Et à quoi ça sert concrètement ce carrefour ?
Eh bien, Idéalco a une mission, c'est créer du lien et favoriser l'entraide. Et ce salon est un des outils, justement, pour créer du lien et favoriser l'entraide entre professionnels du secteur de l'eau. Donc, nous organisons, durant ce salon, des temps d'animation, des temps de formation, des temps de partage d'expériences pour que la profession puisse, bien sûr, se rencontrer, mais aussi apprendre et découvrir des innovations, découvrir des bonnes pratiques du secteur.
Et des étudiants aussi peuvent y participer pour, par exemple, découvrir les métiers en rapport avec la gestion de l'eau, c'est bien ça ?
Bien entendu, depuis quelques années, nous avons aussi ouvert nos portes aux étudiants. Et sachez qu'on a un pôle emploi et formation monté depuis 2 ans, en partenariat avec Actu Environnement, Emploi Environnement et France Travail. Cette année, nous avons d'ailleurs renforcé notre partenariat avec France Travail, puisque je ne sais pas si vous êtes sans savoir que 13 000 postes seront à pourvoir d'ici 2025 dans le secteur de l'eau. C'est une étude menée par le ministère du Travail. Et avec France Travail, on a organisé une étude qui nous a permis, c'est surtout France Travail qui a travaillé sur cette étude, permis de faire matcher les demandeurs d'emploi, donc leur profil, leur spécificité, leurs compétences, avec les offres d'emploi du secteur, et en particulier avec les offres d'emploi d'une dizaine d'entreprises qui ont été sélectionnées pour cette année. L'idée étant de commencer petit cette année et peut-être d'aller au-delà l'année prochaine, puisque nous représentons sur ce salon une grosse partie des professionnels de la région Bretagne, pas que, c'est tout l'ouest de la France qui vient, on a même des personnes de Nice qui font le déplacement, ou de Strasbourg, mais étant donné qu'on est en partenariat aussi fort depuis la création du salon avec la région Bretagne qui porte la compétence emploi, il nous semblait vraiment plus qu'utile d'offrir un espace aux demandeurs d'emploi et aux professionnels pour que justement la filière emploi se porte mieux. On est en tension depuis quelques années sur le secteur de l'emploi. On a des spécificités de plus en plus importantes qui sont demandées dans les offres d'emploi sur le marché, et notamment liées au big data, liées aux micropolluants, liées à la technicité dans le monde de l'eau qui ne fait que croître.
Quelles seront les nouveautés pour cette... Donc vous avez parlé d'un renforcement du partenariat avec France Travail. Est-ce que dans le carrefour de gestion de l'eau, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette édition ?
Bien entendu, on a travaillé cette année, je vous ai dit 16 000 participants, ça veut dire qu'il faut aussi, il y aura 5 halls d'exposition, il faut aussi permettre facilement aux visiteurs de se retrouver, d'aller chercher réponse à leurs questions au bon endroit, au bon moment. Donc on a travaillé sur la sectorisation du salon par pôle thématique. Et de nouveaux pôles thématiques sont apparus cette année. Alors il y a les pôles thématiques de longue date que l'on a créés depuis plusieurs années, qui sont les pôles thématiques ANC, pluvial, robinetterie. Et là cette année, on a mis l'accent sur la métrologie à la demande de nos clients et partenaires, avec un espace de démonstration et des pitch produits pour découvrir donc des produits, des solutions directement en conditions réelles d'utilisation, une salle de conférence dédiée, un espace d'exposition regroupant donc uniquement des acteurs de référence sur la métrologie. Ça c'est un pôle, mais vous avez aussi, vous pouvez retrouver le pôle canalisation et accessoires. Ce pôle, on l'a également monté avec nos partenaires. Un pôle agriculture et agroalimentaire, et on a aussi renforcé le pôle acteurs institutionnels nationaux. Pour l'agriculture et l'agroalimentaire, ça fait écho à l'actualité que vous avez peut-être suivi, on a travaillé donc ce pôle-là avec nos partenaires, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, Ferme d'avenir, la BEA et la PCA. Et puis concernant le pôle des acteurs institutionnels nationaux, l'idée cette année c'était de lui donner un peu plus de place. On a travaillé en particulier avec Météo France, la Banque des Territoires, l'UNEP, et on a monté un carré des assos que je vous invite aussi à aller visiter. Ce carré des assos, il a été monté de toutes pièces avec la Fédération Nationale des Collectivités, l'ASTE, qui est une association reconnue du secteur de l'eau et de l'environnement. Et ce carré des assos vous invitera, durant les temps salons, à des présentations concernant des bonnes pratiques de la maîtrise d'ouvrage, par exemple, française, ou bien des présentations de production directement de l'ASTE.
Vous avez parlé de pitch, de démonstration et donc d'explication. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme ?
Alors, au programme 180 conférences, vous, normalement, vous devriez trouver chaussures à votre pied. On va parler de toutes les thématiques de l'eau, donc aussi bien du grand cycle comme du petit cycle de l'eau, aussi bien d'eau potable que d'assainissement. On va faire écho à l'actualité sur le risque inondation. On va parler de réutilisation des eaux usées traitées. C'est une thématique qui entre dans le parcours qu'on a nommé « circularité de l'eau ». Donc un nouveau parcours depuis 2 ans. Un parcours qui fait écho aussi à la gestion plus durable de la ressource, à la préservation de la ressource, à l'économie d'eau. On va aussi faire écho aux 60 ans de la loi sur l'eau. Cette année, enfin c'était en décembre dernier, il y a quelques jours, on a pu fêter les 60 ans de la création des agences de l'eau. Et ces 60 ans, donc, on fera une rétrospective et on ira peut-être se projeter, enfin du moins on va essayer, nos intervenants iront essayer de se projeter jusqu'à 60 ans dans le futur pour voir à quoi ressemblera la gestion de l'eau demain. Du moins essayer de détourer les contours de cette nouvelle façon d'aborder la gestion de l'eau. On aura le plaisir de recevoir Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher donc jeudi matin pour cette conférence, et Thierry Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne, Loïc Obled, directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, seront aux côtés de la ministre donc pour représenter aussi bien l'organe de gouvernance du bassin, l'État, par l'organisme donc Agence de l'eau, et Michel Desmolder, président de la collectivité eau du bassin rennais, prendra la parole pour représenter les territoires.
Et il y aura aussi des projections de films, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous savez à peu près ce qui est prévu par rapport à ça ?
Alors, dans l'espace Solutions fournées sur la nature, c'est pas un nouvel espace cette année, mais on l'a créé l'année dernière et ça a bien fonctionné, donc on le repropose cette année. On aura le soir, effectivement, un film débat que je vous invite donc à aller voir. Alors, la projection débutera à 18h. Le film s'appelle « Les veilleurs de tourbières ». Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir sur place.
Ok, pas de spoiler. Et alors, on a beaucoup parlé de la gestion de l'eau, donc, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en résumant, parce que j'imagine que c'est très complexe, mais comment est-ce qu'on gère l'eau ?
Très, très large question. Comment on gère l'eau ? Bah, écoutez, on a un cadre européen qui est transcrit en loi française. Gérer l'eau, ça veut dire préserver la ressource, ça veut dire produire de l'eau potable, ça veut dire la distribuer, et puis la consommer, la traiter et la remettre au milieu naturel. Voilà. Donc ça, c'est le petit cycle de l'eau. Hein, c'est ce qu'on faisait, qu'on fait depuis longue date. Mais on a aussi le grand cycle. Et aujourd'hui, quand on demande comment on gère l'eau, eh bien on intègre justement cette vision grand cycle de l'eau, donc ça veut dire l'eau de pluie, le ruissellement, qui peut générer parfois effectivement des inondations, ou par manque d'eau, des sécheresses. Et donc c'est ainsi qu'on gère l'eau aujourd'hui, en intégrant l'eau dans les projets d'urbanisme, en prenant en compte la capacité qu'a le territoire à pouvoir ou non fournir plus ou moins facilement, la qualité. Aussi, en regardant les paramètres de qualité, on peut mettre en place derrière des actions de prévention adaptées. et puis des actions de traitement si nécessaire. Donc gérer l'eau, je dirais que ça rentre de plus en plus dans une vision transversale de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de la ville. Et gérer l'eau, c'est aussi, si vous voulez, s'inscrire, on doit maintenant s'inscrire dans cette transition écologique avec la gestion de l'eau. Donc on parle de plus en plus de préservation, de restauration, de renaturation.
Et est-ce qu'au fil des éditions, vous avez vu une évolution des thématiques abordées ou potentiellement de la sensibilité des publics par rapport à ces questions-là ?
Au fil des éditions, j'ai remarqué en effet qu'on parle de plus en plus de gestion intégrée. Par exemple, si je prends le cas de la gestion de l'eau de pluie, de l'eau pluviale, on parlait de techniques alternatives. Donc ces techniques comme les noues d'infiltration, des bassins qui permettent de rester en inondation et puis de laisser s'écouler l'eau au fil du temps sur des périodes peut-être un peu plus longues. Donc on permet l'inondation sur des stades. Donc ces techniques qui étaient dites alternatives maintenant sont appelées des techniques plus courantes, entre guillemets. Donc c'est de la gestion intégrée. Donc oui, il y a quand même une prise de conscience. Mais bon, les professionnels sont conscients. C'est plutôt une prise de conscience de la population que l'eau est un enjeu fort aujourd'hui. Je voulais rajouter que je vous donnais tout à l'heure des chiffres donc sortis par le ministère du Travail sur les 13 000 emplois pour voir d'ici 2025. Pour se former, pour rejoindre cette filière, on a des formations donc, depuis le CAP jusqu'aux écoles d'ingénieurs avec des diplômes qui vous permettent derrière, effectivement, soit de piloter, soit d'entretenir les installations, les usines, les réseaux, avec un BTS de référence, qui est le BTS métier de l'eau et BTS Gémeaux, donc qui sont connus et reconnus aujourd'hui. Voilà, pour pouvoir rejoindre cette filière, il y a aussi deux écoles d'ingénieurs de référence qui sont donc Polytech et l'ENGES.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Le Carrefour des gestions locales de l'eau, ça se passe demain et après-demain au Parc des Expositions de Rennes.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique Take It or Leave It d'Eva qui décrypte la prog de syllabes une fois par mois.
What?
What?
C'est ma chronique en 2025 et pour ceux qui écoutent que ma chronique, bonne année.
Genre, elle a des fans quoi, ils viennent pour ça.
Juste cette chronique.
Ah mais il y a des gens qui viennent au club et tout dire, il y en a, ils viennent au club juste demander Eva, ça va être quoi la prochaine chanson et tout.
Arrêtez de mentir,
ceci
s'il vous plaît.
Jamais arrivé.
Mais pour moi la nouvelle année, du coup, elle se traduisait un peu en une envie de changement. Du coup. Un peu de changement dans ma chronique et je vais vous mettre en situation. Vous voyez, quand vous êtes dans un café, bar, resto, n'importe, et qu'il y a un groupe d'inconnus qui vient s'installer à la table d'à côté. Et c'est pas que vous le voulez, mais vous écoutez un peu leur conversation. Pas trop, mais quand même, en vrai. Hein. Et bah...
Je vois pas du tout ce que tu veux dire.
Non, arrête de mentir. On sait tous. Mais... Moi, je vois ça un peu comme une entrée, une sorte d'entrée dans le monde de quelqu'un d'autre, n'importe qui. Vous n'avez pas le contexte, vous ne connaissez rien de la personne, mais c'est une histoire de leur vie que vous entendez. Bon, du coup, ce n'est pas par choix qu'on vous partage cette histoire, mais tout de même, vous pouvez interpréter, vous pouvez juger, vous pouvez vous identifier ou non, mais surtout apprendre à connaître un inconnu ou juste quelque chose avec une seule histoire. Et bah pour moi, c'est ça un peu aussi les chansons. C'est un partage choisi d'histoire, de vie, de pensée, avec juste quelques paroles. On vous informe sur une situation, sur un sentiment, sur quelque chose qui vous touche. Et moi, j'aimerais parler ici d'une chanson, d'une histoire. Interprétation, bien sûr, ce sera la mienne. Mais tout de même, elle me parle et je pense que ça parle à certains et certaines d'entre vous aussi. C'est, la chanson, c'est « Distance » de Liv Delestal.
Dans des bras au hasard, au regard un peu bizarre, je me vois plus contrôler. Et c'est tard, beaucoup trop tard, le corps fêlé dans le noir sur le macadam. Je veux crier, je veux danser, tout balancer, je veux pleurer.
Vous captez un peu le mood.
Ouais. Mm-hmm. Très Rennes 2.
C'est un mood de soirée, de boîte, de teuf avec des basses omniprésentes. L'électro qui prend vraiment toute la place, qui laisse vraiment pas de place à penser. Et c'est des phrases courtes. Et c'est un peu juste ton corps, il est là et il se balance. Et la personne dit je veux crier, je veux danser, je veux pleurer. Mais c'est tout bloqué. Il y a rien qui passe, aucun sentiment. Alors qu'il y a un mal-être certain, dont elle parle aussi, mais ça passe pas. Et elle dit tout de même, je me laisse tomber, je me déteste, je vais oublier plus tard dans la chanson. Et c'est dans ces moments où, en fait, je sais pas trop quoi faire pour aller mieux, mais juste danser, être au milieu de la musique, être dans ce brouhaha, cette espèce d'arrêt de pensée, je sais que honnêtement, ça aide. Et pour beaucoup de mes proches, genre aller en boîte, avec, comme elle dit, 1000 visages, 1000 vies autour, et t'es pas très présent, donc tu ressens plus rien. T'es juste là et donc t'as plus ton mal-être, et je crois que c'est ce qu'elle qualifie de distance danse, et tu prends de la distance en dansant, et je trouve que c'est iconique comme terme aussi, distance danse. Et donc voilà un peu comment je voyais ma chronique, qui serait plus tournée vers les mots, vers une histoire, vers une interprétation, une chanson, une vision. Et voilà, une chronique. Take it or leave it, am I right?
Oh yeah!
I take.
Merci Eva. J'approuve la formule 2025. Mm-hmm. Très cool. Et le morceau Distance de Liv Delestal est à écouter sur Scylab à tout moment dans la journée. En
et oui.
Prog de qualité. Le répondeur.
Le répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Scylab, la radio sauvage.
Si grâce à mon super édito, vous avez regardé Idiocratie d'ici demain ou plus tard, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous laisser un message vocal au 02 30 96 25 35. On le diffuserait à la fin de cette émission. Et puis, avant qu'on se quitte, nouveau jeu concours. Les Nuits de la Lecture reviennent dès le 26 janvier pour une 9e édition sur le thème des patrimoines. À l'Université Rennes 2, les BU et le service culturel s'associent à cette manifestation nationale qui est portée par le Centre National du Livre. Il y aura notamment un liraton organisé. Le principe du liraton, c'est un marathon de lecture. Donc c'est ce jeudi de midi à minuit, non-stop. Pour l'occasion, Scylab vous propose un jeu concours pour gagner une licence d'une validité de 11 mois pour un des livres numériques dans la collection Monde en VF de chez Didier Fleu. Pour participer, voici le mot de passe, c'est Jules Verne, comme l'un des nombreux personnages au cœur des ouvrages de la collection Monde en VF. Rendez-vous sur C-Lab pour jouer. Et puis, on se retrouve demain en direct de la BU de Rennes 2, si tout va bien, si on y a accès. Mais après, mm-hmm. Ça devrait le faire. Hein.
Normalement.
Oui. Donc, on sera en direct de la BU pour une 6 heures avant minuit spéciale Nuit de la Lecture.
Voilà.
Merci Timothée et Héloïse pour la technique. Et puis, à demain, à la BU, du coup.
Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Scylab, la radio sauvage.